belle conquête se pencha jusqu'au cou dans la gueule de la bête qui d'un grand coup de croc lui fit perdre la tête. On les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Toto le tigre adore Conchita la danseuse, qui n'aime plus Zorro à la langue menteuse. Toto le tigre attend qu'elle soit amoureuse de notre beau dompteur à tête savoureuse. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Oh les.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvert, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ses 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour. Blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bat. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas, pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, 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 Gary Cooper s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car Alan Ladd n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croûton de pain. Gar, 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 pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
Alice ne croit pas à ces histoires-là. Alice, tu sais bien que jamais on n'en revient. Les électrophones au fond de nous résonnent. Les cow-boys, les indiens, Alice.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
chaste. Nos cerveaux et chagrins à l'envie pour nous de faire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Radio Libertaire, c'est la radio sans dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec aujourd'hui au programme deux parties. La première partie, ce sera un entretien avec Anthony Passeron pour son premier roman intitulé Les enfants endormis, paru aux éditions du Globe. Et en deuxième partie, nous retrouverons notre chroniqueur Gérard Guégan, sa chronique mensuelle qui sera consacrée aujourd'hui à deux ouvrages. Il y sera question du dernier livre de Philippe Videlier et de la biographie de Kafka dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà pour le programme de ce jour. On retrouve tout de suite Anthony Passeron sur Radio Libertaire. Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéaux et débats, avec le plaisir de rencontrer Anthony Passeron pour un très très beau roman, enfin moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est paru aux éditions Globe et qui s'intitule « Les enfants endormis ». Et c'est un livre qui est sorti en début d'année, donc à la rentrée dernière, et qui a eu de nombreux prix, dont le prix Veplaire, mais c'est pas parce qu'il a été primé qu'on se retrouve ce soir, c'est parce que le livre est vraiment très bien. Et je suis contente de pouvoir faire cette session de rattrapage et d'inviter nos auditeurs à découvrir Les enfants endormis. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, et puis ce livre m'a beaucoup touchée, donc je suis contente qu'on en parle, parce que ça raconte une histoire basé sur un silence familial, on va y venir dans quelques instants, mais c'est également au niveau sociétal un sujet dont on ne parle plus. C'est une période qui a disparu, qui a été un petit peu occultée, et je vous remercie Anthony Passeron de la ressusciter d'une certaine manière et de la redonner à voir dans ses détails.
Merci à vous.
Alors, les enfants endormis, ça commence par... comme je l'évoquais, pas un secret de famille, mais un silence de famille. C'est l'histoire d'un oncle dont on ne parle pas. On sait qu'il a existé, mais jamais on ne l'évoque et jamais on évoque son histoire. Et il y a une volonté, quelque part, de la remettre au jour, cette histoire.
Oui, c'est exactement ça. Hein. Mon oncle est mort en 1987, quand j'avais 4 ans. J'ai pas de souvenir direct de lui, mais j'ai grandi dans une famille où il y avait un oncle et un aîné dans la famille paternelle, un oncle manquant, si j'ose dire. Quand bien même les années passaient, quand bien même je posais de plus en plus de questions, je voyais bien que les réponses n'étaient pas satisfaisantes quant aux conditions de sa disparition. C'est l'un des moteurs d'abord d'une interrogation qui va durer toute une vie, hein, poser des questions quand nos aînés estiment qu'on est trop jeune pour comprendre ou que ça touche des thèmes qui ne nous sont pas accessibles, généralement ça suscite tout un tas d'interrogations et surtout de réinterrogations de l'histoire familiale. Et c'est ça qui est le moteur d'écriture du roman.
Oui, alors une histoire qui n'est pas accessible et qu'on ne veut pas non plus rendre accessible. Mmh. Parce que ce qu'on découvre en lisant aussi Les Enfants Endormis, donc paru aux éditions Globe, Anthony Passeron, c'est que c'est l'histoire aussi d'une époque. Le contexte géographique et historique est très très important. C'est la fin des Trente Glorieuses, c'est l'histoire d'une ascension sociale, c'est dans une région qui n'est pas française depuis si longtemps que ça. C'est un village sur les contreforts de Nice, qui a été donc une région italienne pendant un bon bout de temps, où il y a encore beaucoup d'Italiens pauvres qui sont venus se réfugier. Et cette famille a connu donc, certains membres ont connu la misère et sont devenus, entre guillemets, des notables. Par la force du travail, par la force de ces années aussi et de cette histoire très, très spéciale qui ont fait que, à l'époque, l'ascenseur social existait et qu'on pouvait devenir boucher, avoir une boutique, un commerce florissant et des enfants bien élevés et qui vont à la messe et qui ont un avenir possible devant eux, particulièrement pour l'aîné. Et je crois que c'est important peut-être de revenir sur ces éléments-là.
Oui, c'est vrai que l'histoire que je voulais raconter, c'était l'histoire d'un jeune homme qui était d'abord tombé dans l'héroïne, dans la toxicomanie, dans une famille et dans une géographie dans laquelle cette pratique faisait partie de l'indicible. La toxicomanie, notamment l'héroïne, a été très compliquée à gérer pour l'entourage des toxicomanes, pas seulement à la campagne, mais je voulais raconter ce que dans un tissu géographique, dans une enclave géographique particulière, ce que ça pouvait changer. Et c'est vrai que ce jeune homme qui va tomber dans l'héroïne va être l'un des premiers de son groupe de camarades à contracter une maladie qu'on n'appelle pas encore le VIH-SIDA. Et il me semblait que l'originalité, si j'ose dire, au regard de la production littéraire sur ce sujet-là, c'était que très peu de documents restaient de ce qu'avait été la toxicomanie d'une manière générale, mais surtout dans cette géographie-là et dans cette société-là. Et il m'a semblé qu'il était important d'écrire un roman justement pour essayer de réduire un peu cet angle mort qui était de sortir de la carte postale du toxicomane urbain, intellectuel, des grandes métropoles, en l'occurrence de Paris, etc. Et c'est vrai qu'à l'endroit du VIH-SIDA, on a eu, à partir d'Hervé Guibert, une sorte de carte postale qui s'est figée. Guibert est arrivé à un moment où sans doute il était nécessaire que le malade parle de son expérience du VIH-SIDA à la première personne, etc. Mais il a figé le stéréotype du malade homosexuel, intellectuel, des classes supérieures, etc. Et c'est vrai qu'il me semblait qu'avaient été sous-représentés les malades du VIH-SIDA de la classe moyenne, de ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, mais qu'on pourrait qualifier de ruralité, et notamment de cette frange des premières victimes du VIH qui étaient les toxicomanes, qui sont longtemps restés sous les radars sanitaires et médiatiques, mais qui constituent aussi une sorte d'angle mort dans les représentations du VIH-SIDA, dans le corpus artistique, cinématographique, etc. Donc c'est tout un ensemble d'angles morts comme ça qui me semblait que l'histoire de cet oncle une fois racontée dans un roman, pouvait venir éclairer a posteriori. Et vous avez parlé tout à l'heure d'une époque, et c'est vrai que cet oncle demeure un mystère dans cette famille de notables, de commerçants qui ne pensent jamais qu'à travailler. Cet oncle fait partie de la première génération d'enfants du village qui va poursuivre des études en dehors du village, et il va découvrir une métropole, une ville. Il va aussi découvrir des usages culturels et notamment l'héroïne dans un village qui ne la connaît pas, qui ne la comprend pas, etc. Donc c'est aussi l'histoire d'un jeune homme qui quitte son enclave géographique et qui va découvrir tout un tas de pratiques qui sont ceux d'une génération. Et c'est vrai que le VIH-Sida ayant emporté la plupart des héroïnomanes, si vous voulez, c'est pas seulement la pratique de la consommation d'héroïne qui a disparu, c'est aussi toute une tout un pendant politique, social, oui, culturel de cette génération-là qui a été fauchée. Et c'est une toute proportion gardée, parce que je voudrais pas dire que ce livre n'est pas ce qu'il n'est pas. Il n'est pas une sorte d'enquête à rebours. Il n'est pas une enquête, mais c'est une tentative d'essayer de dire ce qui n'a pas été dit.
Ça, c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida né, elle est année d'amour, à mourir d'aimer, ils sont morts d'amour, d'amour sida né, oh sida. Sida, sida, danger, sida. Oh, sida, sida, amour à mort. Oh, sida, sida, assassin recherché. Mais qui a mis l'amour à mort? Mon amour malade, ma douleur d'aimer. Mon damné d'amour. Sida, sida né, à vouloir t'aimer, d'amour à mourir, j'en mourrai peut-être, sida assassiné, oh sida, sida comme le furet, passer par ici, repasser par là, oh sida. Sida, assassin recherché, mais qui a mis l'amour à mort? On rêvait d'amour, à mourir d'aimer, et l'on meurt d'amour, sida, sida né, maladie d'amour, où l'on meurt d'aimer, seul et sans amour. D'abandonner, si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida né, l'étalé d'amour, à vouloir s'aimer, ils sont morts d'amour.
D'assassiner.
Alors, c'est vrai que l'action se déroule dans ce village qui est une sous-préfecture modeste, mais encore vivant. On n'est pas encore dans cette époque où ça va se paupériser. Il y a encore un certain faste. Et lui, Désiré, puisqu'il s'appelle Désiré, puisqu'il est l'aîné et qu'il a donc hérité du prénom des grands-pères, parce que la transmission est très, très importante. Lui va réussir son bac, ce qui est quand même un événement. Il va devenir secrétaire du notaire, et c'est au frère cadet que va revenir la boucherie et, j'allais dire, la valeur travail, entre guillemets. Ça, on parlera des deux frères dans quelques instants. Mais comme vous l'évoquez, Anthony Passeron, la toxicomanie de l'époque, on ne se souvient pas vraiment de ce que c'était. C'est l'après 68. Et c'est surtout après loi de 70. Et cette loi a été particulièrement délétère. Il faut y revenir parce que c'était la loi qui était censée lutter contre la French Connection et qui a fait de la toxicomanie un délit qu'il fallait punir et pas du tout le fait que les toxicomanes étaient malades. L'addictologie n'existait pas. Les traitements de substitution n'existaient pas. On vivait ça comme quelque chose, c'était péché, c'était mal et ça nécessitait des punitions.
Oui, absolument. Et ce qui va participer de la catastrophe sanitaire, c'est que parmi les premiers cas identifiés de VIH-Sida, notamment en France, évidemment, il y a des homosexuels, mais on se doute bien que des héroïnomanes qui ont d'abord maille à partie avec la justice et avec la police ne vont pas être les premiers à se présenter dans les services hospitaliers, d'autant qu'il faut se souvenir qu'ils étaient souvent très mal accueillis, voire même complètement rejetés des services d'urgence, parce qu'on estimait qu'ils étaient des gens qui détruisaient leur santé, donc c'est à quoi bon s'occuper d'eux. Et c'est vrai que cette loi de 70, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est une loi qui considérait le consommateur comme un criminel au même titre que le trafiquant. Et quand bien même cette loi n'est plus tout à fait en vigueur, elle participe justement d'une manière de traiter la toxicomanie spécifiquement franco-française qui va participer de tout un tas de retards qui auront des conséquences sanitaires absolument déplorables. Un retard dans la distribution libre des seringues, un retard dans la distribution des produits de substitution, en l'occurrence la méthadone, le Subutex, alors que dans d'autres pays, ça faisait longtemps qu'on avait acté ces choses-là. Et une grande partie de ce que Anne Coppel et toute une série de sociologues va appeler la catastrophe sanitaire dans un livre qui revient sur, en gros, une histoire franco-française de l'héroïne, il va se situer ici. C'est-à-dire que quand le VIH-Sida va arriver, cette manière grégaire et très limitée finalement de concevoir la chose toxicomane en France va alimenter, participer à décupler la capacité d'une épidémie. Et ces jeunes toxicomanes, ils sont doublement condamnés parce qu'ils sont en plus en dehors des métropoles, ils sont à l'écart, et quand bien même les premières lois de 87 vont arriver en faveur de la distribution de seringues, il sera toujours plus facile de s'en procurer en ville qu'à la campagne, etc. Et c'était vraiment une histoire du sida des héroïnomanes que je voulais raconter, pas tant du point de vue du malade comme ça avait été fait notamment avec Guibert, Dustan, etc., parce que la pratique toxicomane de mon oncle appartenait à un ailleurs auquel la famille n'avait pas accès. Et je ne voulais pas tenter de reconstituer artificiellement une vie à laquelle je n'avais que très peu accès, quand bien même certains de ses compagnons de seringue, si j'ose dire, sont toujours vivants. Très vite, il s'est imposé que ça serait un roman sur les conséquences du VIH-Sida sur une structure familiale, sur des liens. Et en ce sens, je me cacherais derrière mon petit doigt si je disais que c'était pas un livre sur le sida ou pas un livre sur l'héroïne. Mais il me semble que ce que j'ai voulu faire, c'était davantage un livre sur ce que l'héroïne et sur ce que le VIH-Sida était venu contrarier au sein d'une famille, dans des trajectoires individuelles et collectives.
Alors oui et non, j'allais dire Anthony Passeron, parce qu'on va parler quand même de la construction du livre, donc Les enfants endormis parus chez Globe, parce que vous avez une alternance de chapitres. Un chapitre, l'histoire familiale et l'histoire de cet oncle que vous reconstituez d'une certaine manière, et un chapitre, histoire du sida. en lui-même depuis le début, la première lecture, le premier article qui paraît, qui évoque effectivement une maladie qui touche quelques Américains, jusqu'à effectivement toute l'évolution de la recherche, l'apparition des tests. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que quand on parle du sida maintenant, on dit « Ah bah oui, mais il y a des traitements pour ça, il y a la PrEP, il y a tout ça, c'est pas un problème, c'est devenu une maladie chronique, voire une maladie évitable d'une certaine manière. » Mais il faut revenir sur cette période qui a duré à peu près 10 ans, en gros, donc c'est très très long, 10 ans, où on voyait des individus, des hommes, des femmes, des enfants jeunes mourir dans des conditions atroces. Voilà. Et au travers de des chapitres consacrés justement au sida en lui-même, qui sont très sobres, très, très épurés, on perçoit en même temps tout ce que ça représente derrière. Et donc, je voulais savoir comment vous était venue cette idée de construction.
Oui, en fait, ça faisait très longtemps qu'il y avait une envie chez moi de raconter l'histoire de ce fils préféré qui était devenu toxicomane, qui avait contracté le virus, sa maladie ayant cristallisé la jalousie entre deux frères, qu'elle avait décuplé, elle avait mis en exergue le courage d'une mère immigrée italienne, etc. Ça aurait pu faire un roman à part entière. Oui. D'ailleurs, quand j'ai envoyé le manuscrit à certains éditeurs, ils m'ont dit « mais ça suffit, c'est pas la peine d'ajouter votre deuxième narration là que... » qui leur semblait superflu. Mais quand il a été question d'écrire, j'ai bien vu que les membres de ma famille n'étaient plus en mesure de m'expliquer concrètement ce que ça voulait dire d'être séropositif au début des années 80 dans un petit village où il y avait juste un ou deux généralistes, en plus des généralistes extrêmement pratiquants du point de vue de la religion et donc qui n'étaient peut-être pas les plus à même de faire preuve d'une compréhension nécessaire à l'apparition de cette maladie au regard de la pratique qu'il a véhiculée. Et c'est vrai que j'ai donc commencé à me documenter dans un corpus scientifique cette fois et là j'ai trouvé une seconde histoire qui m'a semblé elle aussi éminemment romanesque, la découverte des premiers cas, l'identification du virus, la course contre les Américains, etc. Vous l'avez dit, ça m'a semblé éminemment romanesque et en mesure d'intégrer le roman. Et surtout, tout d'un coup, ça m'a semblé nécessaire parce que pour comprendre la violence avec laquelle la tragédie a été reçue dans l'intimité d'une famille, il fallait aussi, selon moi, proposer une sorte d'almanach scientifique et médiatique et politique, certes incomplet, parce qu'il aurait fallu des milliers de pages pour être complet, mais ne serait-ce que parcellaire, cette almanach qui viendrait documenter la violence du VIH-Sida dans la société, dans la dimension collective, avec les premiers traitements médiatiques, les premières occurrences, etc., qui allaient créer un Sida collectif. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est aussi de dire que ce qui a fait du VIH-Sida une maladie particulière au sein des familles, évidemment que tout cas de maladie mortelle dans une famille va mettre en danger l'équilibre familial, les relations familiales. Évidemment, il ne s'agit pas de quelque chose qui est réservé au VIH-Sida. Mais le VIH-Sida avait une dimension morale et politique si forte que c'est aussi cette dimension morale et politique qui va venir contaminer les relations familiales. Et en ce sens, il me semblait que la contamination était double. C'était d'abord la contamination biologique des personnes touchées, mais c'est aussi la manière de considérer collectivement le VIH-Sida avec des idées absolument grégaire, hein, comme celle qui expliquait que certains malades étaient plus coupables que d'autres, etc., qui va venir pourrir la relation au sein d'une famille. Et c'est pour ça que cette narration collective me semblait indispensable, parce que finalement, sans que jamais ces deux histoires ne se rencontrent directement, le lecteur comprend bien les liens qui peut tisser entre ces deux histoires et comprendre à quel point elles s'alimentent. Et accessoirement, il me semblait aussi important de rendre hommage à toute une série de médecins qui ont commencé à travailler dans des conditions difficiles. On leur a plus que... On leur, souvent ils disent qu'ils ont travaillé dans une certaine ignorance. Pour certains d'entre eux, ils ont même pas eu de l'ignorance et on leur a même mis des bâtons dans les roues, hein, directement. Hein. Il faut se souvenir de ce qu'a été l'apparition du VIH, de voir des homosexuels et des toxicomanes arriver dans certaines institutions hospitalières dans lesquelles ils étaient très mal reçus. Donc c'est vrai qu'il me semblait que les deux histoires finalement faisaient partie d'un corpus commun, si j'ose dire. Et accessoirement, le but de ce roman, c'était de briser a posteriori, même de manière artificielle, la solitude d'une famille, et que l'artifice littéraire permet ça, c'est-à-dire que vous pouvez tout d'un coup rapprocher des vies qui ne se seront jamais croisées, qui ne se seront peut-être jamais senties proches l'une de l'autre, mais artificiellement dans un roman. Et il me semblait important d'essayer de briser la solitude de cette famille et de la rapprocher, de l'inscrire un peu de force, un peu au marteau et au burin, comme ça, dans l'histoire collective du VIH-SIDA.
Moi qui voulais de l'aventure, qui m'ennuyais à tout prix, aujourd'hui je peux dire que je suis servi par ta lettre de rupture. Je t'ai souvent dit des injures, tu m'en as fait voir aussi. Il faut faire avec, comme on dit. N'empêche que là, c'est un peu dur. Il faut se dire adieu, se dire au revoir. Ça dépend des dieux. D'être mûr pour apprécier le raccourci que tu me fais prendre entre nous, soit dit, j'aurais préféré l'usure. C'est la première fois, je le jure, qu'être positif, ça m'ennuie. Si c'est Elisa qui le dit, je me perds pas en conjectures. Il faut se dire adieu, se dire au revoir. Ça dépend des dieux. Au revoir, adieu. Il y a une chose qui est sûre, j'y reconnais mes amis, ceux qui s'indignent, ceux qui s'enfuient, ceux qui s'obstinent et murmurent. Mais avec le noyau dur, ceux qui restent à mon sursis, je vais te bouffer, oh ma vie. Je boufferai même tes épluchures. Il faut se dire adieu, se dire au revoir. Ça dépend des dieux. Au revoir, adieu. Il faut se dire adieu, se dire au revoir. Ça dépend des dieux. Au revoir, adieu.
Oui, vous avez utilisé un mot, Anthony Passeron, qui à mon avis résume très très bien les deux histoires, c'est le mot violence. Violence de l'annonce dans la famille et qui va se transformer d'une certaine manière en une occultation totale, un déni complet, surtout chez ce personnage de Louise, qui jusqu'au bout, même une fois que la mort sera passée par là, ils seront des étoiles dans le ciel, jamais on utilisera les mots. Et c'est cette absence de parole qui est absolument frappante. C'est comment ne jamais nommer les choses.
Oui, parce que il me semblait important d'essayer de raconter la violence d'abord qu'a été la pratique héroïnomane pour les parents. Ces parents qui n'étaient jamais sortis de leur enclave géographique, tout d'un coup découvrent que leur enfant s'injecte un produit dont ils ne connaissent pas la provenance ni les usages culturels et sociaux. Et surtout dans une géographie où l'essentiel, avant même la santé, c'est le candidaton. On est encore dans un village d'environ 1000 habitants où on compte tout au plus 50 noms de famille différents. Et si l'aîné de la lignée de la famille à laquelle j'appartiens se livre à la toxicomanie, l'urgence, c'est d'abord d'essayer de taire cette pratique, parce que de toute façon, il faut se souvenir qu'on est dans un monde où il n'y a encore moins qu'aujourd'hui des structures en mesure de gérer ce problème-là.
Ça n'existe pas.
Exactement, et ça existe encore moins dans cette géographie-là. Donc, l'urgence, c'est d'abord de taire, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est vrai que quand cette pratique toxicomane, qui est déjà difficilement évoquée par les parents, va sembler être le vecteur de l'arrivée d'un virus qu'on prête essentiellement aux homosexuels américains, si vous voulez, pour cette grand-mère qui est une immigrée italienne, la réalité dépasse largement la fiction. Il faut se souvenir qu'aujourd'hui, on en parlait avec les membres des associations, mais quand on a commencé à faire de la prévention, cette histoire de virus, d'abord essentiellement homosexuel, etc., ça paraissait tellement saugrenu que beaucoup, même parmi les populations les plus exposées, n'ont pas voulu y croire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a eu tendance à oublier. Aujourd'hui, que je fréquente ce que j'appellerais des survivants, ils ont réussi à me faire comprendre quelque chose. Moi, je fais vraiment partie de la génération qui a grandi dans une France qui avait commencé à communiquer sur le VIH-SIDA. J'ai pas connu le monde pré-VIH-SIDA. D'ailleurs, c'est pas un hasard, je suis née en 1983, quelques piles entre l'identification du virus et l'apparition de l'article dans Science. Donc, je suis vraiment partie de la génération post-VIH-SIDA et j'ai beaucoup de mal à m'imaginer la déflagration qui a été pour des gens qui avaient connu un monde sans SIDA quand la rumeur, puis l'information de ce virus étrange est arrivée, à quel point ça pouvait paraître, au sens strict du terme, du domaine de l'incroyable. Et c'est vrai que ce que j'ai essayé de faire, c'est pas documenter le VIH-SIDA avec un regard universitaire a posteriori, comme ça s'est beaucoup fait, et parfois dans des documents absolument passionnants. J'ai vraiment essayé de retranscrire l'état de stupéfaction, puis de terreur qu'a connu la société à l'arrivée de ce virus.
Oui, je crois que c'est ça aussi qui m'a frappée dans Les enfants endormis, Anthony Passeron, paru aux éditions Globe. Je vais faire une petite parenthèse personnelle, ce qui m'arrive rarement dans cette émission, mais moi j'ai commencé mes études de médecine en 1980 et je suis addictologue. Donc moi j'ai fait partie de cette génération qui a vu arriver et qui a vu effectivement à quel point ça pouvait tout bouleverser, ce que vous décrivez, donc les pastilles rouges sur les portes des patients, les jeunes gens qui meurent ou autres. J'ai effectivement connu tout ce chemin-là. Et ça, vous le décrivez très bien, c'est-à-dire que vous n'allez pas uniquement dans le domaine de la recherche et des avancées scientifiques, parce que comme vous le dites, ces chercheurs, c'était la première fois où ils vivaient une épidémie qui les touchaient directement parce qu'ils étaient en contact avec les malades, ils les côtoyaient. Et c'est cette épidémie, qui a fait quand même un nombre incalculable de victimes, a permis aussi de bousculer les lignes. Dans ce domaine-là, de ces jeunes médecins et ces jeunes chercheurs qui voyaient mourir des gens de leur âge, et puis dans le domaine aussi de la prise de parole des patients, avec la création des associations, et je crois que ça a été aussi très très important, et vous l'évoquez également.
Oui, c'est vrai que parmi les choses que j'essaie de rappeler à la mémoire collective, collective, c'est à quel point le VIH est arrivé perturber toute une série de choses dont vous avez évoqué. L'incompétence totale des médecins les a poussés pour la première fois à considérer différemment leurs patients, à les inclure dans leurs réflexions. Et c'est vrai que l'histoire de la lutte contre le VIH-SIDA est aujourd'hui constitutive de la démocratie sanitaire, en tout cas une partie de ces usages sont demeurés, même s'ils ont été mis à mal par le Covid. Et c'est vrai que tout un tas de choses se sont formées à ce moment-là, et c'est ce qui me fait dire parfois que l'histoire de la lutte contre le VIH-SIDA est une histoire matricielle, dans le sens où tout un tas de relations, tout un tas d'engagements se sont soudés à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est pas un hasard si c'est à l'endroit du VIH-SIDA qu'on va voir apparaître les premières associations de lutte contre la maladie, mais d'abord dans les premières années en guise de soutien aux malades et aux familles, hein, je pense à l'Arcade SIDA et à AIDE, et progressivement avec l'arrivée en 89 d'ACT UP Paris d'une association qui est plus dans l'activisme pour faire accélérer tout un tas d'accès aux soins et en gros pousser les laboratoires et les gouvernants à prendre leurs responsabilités. Et pour l'enfant que je suis, je me souviens en 1993 de voir La Capote sur l'Obélisque à Paris. Et pour moi, ça a été un moment très particulier parce que pour la première fois, on parlait du VIH-SIDA à la télévision. C'était pas la première fois que je le voyais, mais pour la première fois, je voyais vraiment les malades prendre la parole à titre individuel et collectif. Et surtout quelque chose qu'on a peut-être eu tendance à oublier, ce qu'a vraiment mis en exergue ACT UP, c'est que tout d'un coup, ils ont imposé médiatiquement l'image d'un malade qui n'est pas un malade hospitalisé, qui n'est pas alité et qui attend pas la mort comme une sentence. C'est un malade qui est debout et qui se bat et qui exige des choses. Et c'est vrai que pendant très longtemps, je pense que ça a germé dans ma tête jusqu'à l'arrivée de ce roman, c'est de se dire, mais comment se fait-il qu'il y ait des gens qui soient capables de parler de VIH SIDA, de dire qu'ils sont séropositifs, qu'ils sont sans doute condamnés, et comment se fait-il que dans ma famille, on n'est même pas en mesure de dire ce mot VIH-SIDA ? Et tout d'un coup, je me suis dit qu'il y avait sûrement des raisons qui faisaient que certains étaient capables de parler, d'autres non, etc. Et peut-être qu'à posteriori, l'enfant qui était devant sa télé a eu envie de rejoindre toute une communauté VIH-SIDA. Et souvent, j'ai lu ça dans le livre « Ce que le SIDA m'a fait » d'Elisabeth Lebovici, mais le soir où le président Macron décrète le confinement, pour convaincre ses téléspectateurs que l'heure est grave, il utilise la métaphore de la guerre qui lui a été beaucoup reprochée, notamment par des reporters de guerre qui trouvaient la comparaison maladroite, mais il a aussi dit que pour nous convaincre de rester confinés, que la France était face à la plus grave pandémie du siècle. Et pourtant, dans ma famille, on a refermé définitivement les cercueils du VIH-SIDA en 93, mais même moi, cette phrase a fait résonner quelque chose d'insupportable en moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, une partie de l'histoire de ma famille, et comme chez tant d'autres gens, a semblé être absolument niée. Et on a senti à ce moment-là que tout d'un coup, l'oubli de tout ce qu'avait été l'histoire du VIH-SIDA, aussi bien pour les choses les plus terribles que les choses les plus heureuses, était en passe d'être oublié. Et c'est vrai qu'au moment où ce discours est arrivé, j'étais en train de terminer mon manuscrit, donc il n'est pas à l'origine de ce roman, mais par contre, il m'a convaincu de l'importance de continuer à raconter cette histoire parce qu'on arrive aujourd'hui, après 40 ans de découverte du virus, le fait que la maladie soit dans les pays développés devenue une maladie chronique, on voit bien la tentation qui est de dire « prenez vos médicaments et taisez-vous » et qu'on n'en parle plus.
Tout à fait.
Caught you knocking at my cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone. Damage done. to keep from running out. I've seen the needle and the damage done, a little part of it in everyone, but every junkie's like a setting sun.
Alors, c'est vrai que l'histoire de Désiré se situe en amont des essais thérapeutiques et du développement associatif qui est venu que dans un second temps. Là, c'était vraiment parmi les premiers cas où on ne savait pas grand-chose, où effectivement, on pouvait, il n'y avait pas encore les tests, hein, concrètement, c'était pas encore au point. Pour faire le diagnostic, au départ, on faisait des biopsies ganglionnaires aux patients. Ouais. C'était assez terrible. Et Désiré, il va avoir une prise de sang difficilement parce que les soignants ne savent pas non plus quel risque ils encourent et donc ils préfèrent s'en passer. Et cet échantillon de sang va monter à Paris alors que le prélèvement est fait à Nice. Et le diagnostic va tomber, il est séropositif. Et séropositif, on ne sait pas encore trop ce que ça veut dire non plus, encore moins dans sa famille. Alors, on en a entendu parler un peu au journal télé, parce qu'à l'époque, on regarde encore la télé et on regarde encore le journal. Mais on est dans un grand flou. Il continue de se droguer, il se marie, il va devenir père. À chaque fois, on espère que la situation va se régler. On ne comprend pas ce que c'est qu'être héroïnomane. On ne comprend pas ce que c'est que se piquer entre les orteils ou sous la langue. On ne comprend pas ce que c'est que de vivre uniquement pour l'héroïne. Et puis, on ne veut tellement pas y croire que quand le cadet dit que l'argent disparaît de la caisse, c'est juste pas possible. C'est encore le cadet qui dit des bêtises. Et petit à petit, on va saisir aussi l'importance de la colère qui va monter chez ce personnage du cadet qui a donc hérité de la boucherie, mais surtout du fait de ne pas faire d'études, d'être le deuxième, de ne pas être le préféré, d'avoir tout le travail sur les épaules, et en plus de devoir dans un premier temps aller chercher son frère à Amsterdam et ensuite le supporter dans toute la traversée de son histoire de maladie et de toxicomanie.
Oui, Comme on le disait tout à l'heure, le VIH-Sida est venu cristalliser la jalousie entre deux frères. Et cette jalousie préexistait au VIH-Sida, préexistait à la toxicomanie, mais elle a été cristallisée par ces phénomènes-là. Et c'est pas un hasard si je suis si l'auteur des Enfants endormis, c'est le fils de ce frère jaloux, de ce frère cadet, qui a jamais réussi à convaincre ses parents de la gravité de la situation, qui a jamais réussi à briller aux yeux de leurs parents au-delà de quelques petits faits. Et c'est vrai qu'en ce sens, il me semblait que cette histoire de jalousie, de frères différemment aimés, me semblait éminemment romanesque. Mais vous avez parlé de la colère de ce père. C'est un moteur essentiel de l'écriture du roman. Le roman commence sur la colère d'un père à l'endroit de son frère mort. Évidemment que le fait de voir mon père en colère contre un frère qui était déjà mort depuis plusieurs années a suscité tout un tas d'interrogations chez moi, et qu'aujourd'hui les enfants endormis, si jamais je devais en dévoiler un peu la charpente, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé son écriture, c'est une volonté d'expliquer à mon père que la toxicomanie de son frère n'était pas un simple caprice de jeunesse, qu'elle s'inscrivait dans une histoire géographique collective et culturelle collective, et que le VIH-Sida ne venait pas de nulle part, n'était pas juste la sentence divine d'une pratique toxicomane ou homosexuelle. Et en quelque sorte, ce livre est une sorte d'adresse à mon père, uniquement à mon père. Mais à travers ce père, je me suis rendu compte que depuis que je sillonne la France pour défendre ce livre, j'ai découvert beaucoup d'ersatz de mon père. J'ai découvert des frères, des cousins, des parents, des enfants de personnes qui sont disparues aujourd'hui et qui ont gardé des affects à l'endroit du disparu. Il ne s'agit pas de disparaître pour voir les affects liés aux disparus disparaître eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il demeure dans ces familles-là encore beaucoup de non-dits, beaucoup de colère, beaucoup de peine, et que ce que je voulais proposer avec les enfants endormis, c'est une pas tant une tentative d'explication parce qu'elle est de toute façon vaine, notamment à l'endroit de la toxicomanie d'ailleurs. Mais ce que je voulais, c'était inclure cette histoire dans une histoire collective, de raconter d'où venait la drogue, en quoi elle pouvait essayer de raconter ce qu'a été l'héroïne avant l'arrivée du VIH-Sida. Parce qu'après 40 ans de pandémie, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un s'injecter un produit en intraveineuse, on pense tout de suite infection. On pense tout de suite VIH-Sida. Mais mon oncle a découvert l'héroïne dans un monde où le VIH-Sida n'existe pas. Alors évidemment, il y a des risques d'infection, il y a des risques d'overdose, mais c'était moins dangereux que quand le VIH est arrivé. Et essayer de remettre toute cette géographie, toute cette culture dans une espèce de récit qui essaierait de donner du sens à une histoire qui n'en a pas forcément un, c'est aussi une tentative d'apaisement.
Alors, comment a été accueilli le livre par votre famille ?
Il a été accueilli de manière très diverse, mais si j'ose dire, ça a presque eu tendance à me convaincre qu'il était nécessaire. C'est-à-dire que, comme dans toutes les familles où il y a eu un tabou, des gens qui toute leur vie m'avaient dit « mais je ne me souviens pas, je ne veux pas en parler », tout d'un coup se sont remis à discuter, se sont remis à me dire « mais moi je me souviens que ceci, moi je me souviens que cela ». C'était un peu frustrant d'ailleurs parce que tout d'un coup on découvrait qu'on aurait pu mettre beaucoup plus de choses dans ce livre et tout d'un coup on se dit que ce livre aurait pu ne pas être un roman, il aurait pu être un récit parce que il a fallu combler beaucoup de vides avec tout un tas d'histoires collectives réassemblées parce que les membres de ma famille à l'origine du moins ne voulaient pas parler. Mais c'est assez satisfaisant de pouvoir reparler de cette histoire et de se rendre compte qu'elle existe toujours. Et pour une autre partie de la famille, je me suis rendu compte, mais ça vient aussi de l'enclave géographique, que la toxicomanie reste un tabou et que dire que mon oncle était toxicomane, c'est comme l'insulter en fait. Alors qu'il me semble que dire que Désiré était toxicomane, c'est l'inscrire justement dans une histoire collective. Et il n'était pas, si vous voulez, ce jeune homme était original dans sa lignée familiale pour tout un tas de raisons. Il avait fait des études de premier, il a été, semble-t-il, politisé dans une famille de commerçants qui ne s'occupait pas de politique, qui ne s'occupait d'ailleurs de rien d'autre que du magasin. Il était ouvert à tout un tas de choses, notamment des disques de rock, etc., qu'aucun des autres membres de sa famille n'a jamais écouté. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est aussi de me rendre compte qu'avec la disparition de Désiré, c'est tout un pan de connaissances géographiques et culturelles dont la famille aurait pu hériter qui a disparu. C'était le seul membre de la famille qui avait été capable de, sur un coup de tête, partir à l'étranger, par exemple. Il y a tout un tas de choses qui a disparu avec lui.
bitter.
Il était de cette génération des années 70 où donc post 68, donc ouverture, discussion, ouais, philosophie, politique et surtout remise en question des valeurs de la génération précédente, ouais, de la valeur travail essentiellement, en se posant la question de savoir mais est-ce qu'une autre société n'est pas possible. Et il est tout à fait dans cette démarche là. Est-ce qu'une autre vie n'est pas possible? Il l'a tenté. Ça s'est mal passé pour lui, comme ça s'est mal passé pour beaucoup de cette génération-là, ouais, qu'on a perdu en route. Mais c'était quand même une volonté d'aller de l'avant.
Oui, et surtout, ce qui m'a semblé très frappant, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où tout ce dont vous venez de parler n'existait pas. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas d'ailleurs, il n'y avait pas d'autre société possible, il n'y avait pas à philosopher, il y avait juste à travailler. Et quand je suis devenu moi-même étudiant en histoire géographie, que j'ai gagné la métropole la plus proche, en l'occurrence Nice, et que je me suis retrouvé à l'université, j'ai découvert une philosophie, une culture, une réflexion, et c'est a posteriori que j'ai découvert que cette culture-là avait déjà été présente dans ma famille. Mais c'est le VIH-Sida qui va la faire disparaître. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'essayer de raconter de manière très sommaire, parce que je voulais pas commettre de maladresse et je voulais pas réduire la vie des toxicomanes de l'arrière-pays niçois à un détail politique ou culturel qui aurait pris le pas sur tout le reste. Mais je voulais essayer de raconter dans quel monde social, culturel, cela s'était passé et à quoi pensait cette jeunesse à ce moment-là. Parce que c'est vrai que, d'une manière générale, le VIH-Sida a emporté toutes ses aspirations avec lui. C'est dans une population toxicomane où la quasi-totalité des pratiquants ont disparu, il ne s'agit pas que de la pratique toxicomane qui a disparu. Il s'agit de tout le background, si j'ose dire, enfin l'arrière-plan culturel, social, philosophique et politique qui était porté par cette population qui a disparu aussi. Et c'est un peu cet ensemble de choses-là que je voulais, en quelque sorte, rendre à la lumière de la mémoire collective.
C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a parlé de contre-culture pour cette période-là. C'était vraiment être contre tout ce qui avait pu exister avant et qu'on remettait en question. Et je crois qu'effectivement, les enfants endormis permettent de retrouver ces éléments-là. Anthony Passeron, dans ce roman paru aux éditions Globe. Alors, question aussi par rapport à vous, l'écriture de ce roman, par rapport au fait de recréer ce personnage de Désiré, ce personnage de cet oncle. Est-ce que quelque part, ça a changé quelque chose pour vous?
Oui, ça a changé pas mal de choses. D'abord, à titre personnel, j'étais enfant quand les membres de ma famille sont morts du VIH-Sida et j'ai bien eu la tentation, comme le reste de ma famille, de ne plus jamais aborder la question du VIH-Sida. D'abord parce que j'avais vécu dans un monde où le VIH-Sida tuait directement des membres de ma famille. Donc comme eux, dans les premières années qui ont suivi leur mort, j'ai eu besoin de m'éloigner de ces questions-là. Et a posteriori, je me suis rendu compte que j'étais hantée de manière très différente par ces questions et qu'il me restait une inquiétude particulière, une peur particulière à l'endroit du VIH-Sida. Et ce qu'a changé l'écriture des enfants endormis, c'est que je me suis rendu compte à quel point raconter l'histoire du VIH de A jusqu'à Z, du moins le plus précisément possible, hein, parce qu'on n'a pas fini de découvrir encore tout un tas de choses à son sujet, c'est aussi le mettre à distance et essayer de résorber une partie des peurs, si j'ose dire, des peurs un peu immatérielles à l'endroit du VIH, incontrôlées, parce que c'est aussi une maladie qui a, en quelque sorte, traumatisé la société, même psychologiquement traumatisé la société, et que raconter cette histoire, c'est aussi la remettre à niveau. Et récemment, j'ai eu le mail d'un lecteur qui m'a écrit pour me dire, bah, grâce à la lecture de votre livre, pour la première fois de ma vie, j'ai eu le courage d'aller faire un test de dépistage parce que je m'étais sans doute exposée, mais je n'étais pas en mesure, je n'avais pas la force nécessaire pour aller faire un test de dépistage. Et ça a été un des plus beaux messages que j'ai reçus parce que je me suis dit, c'est vrai que pour réduire la peur autour d'une question, il faut essayer de documenter. Et c'est vrai que l'urgence sanitaire a beaucoup joué avec la peur. Je me rappelle des publicités à l'endroit de la prévention du VIH-Sida quand j'étais enfant. Elles n'expliquaient absolument rien et elles cherchaient simplement à faire peur. Et on a bien vu que c'était très limité comme résultat, parce que je voyais bien à quel point, pour mes camarades qui n'avaient pas eu de malades du VIH dans leur famille, à quel point le sida était une sorte d'être fantasmagorique, qui était là sans être là, etc. Alors que si vous faites l'histoire d'une maladie, vous expliquez exactement comment elle se transmet, etc., je trouve que c'est beaucoup plus aisé de s'en prémunir, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est une des satisfactions qui font que j'ai l'impression d'avoir mis tout ça à distance. Je viens de fêter mes 40 ans aujourd'hui et je peux parler. D'ailleurs, j'ai fait exclusivement ça cette année, mais je suis le fils d'une famille qui peut pas parler du VIH-Sida et j'ai passé mon année à parler de ça. Donc, c'est bien que la preuve que le roman m'a permis de reprendre du pouvoir sur les mots, et en reprenant du pouvoir sur les mots, on reprend du pouvoir sur la réalité aussi. Donc ça fait partie des satisfactions de celui qui a écrit ce roman. Oui.
Ça s'appelle Les enfants endormis, c'est d'Anthony Passeron, c'est paru aux éditions Globe. Il faut quand même dire un mot du titre, Les enfants endormis, parce qu'il est très bien trouvé.
Oui, merci infiniment. C'est un titre qui est arrivé très tard parce que j'avais pas d'espoir de publication, donc j'ai écrit mon manuscrit sans lui donner de titre. Et à la fin de sa vie, mon grand-père, comme beaucoup de personnes âgées, a été touché par la maladie d'Alzheimer. Et lui, qui n'avait jamais parlé de la toxicomanie de son fils, dans ses moments d'égarement, les moments où la maladie d'Alzheimer commençait à faire son œuvre, il s'est mis à raconter qu'il devait aller chercher son fils Désiré parce qu'il était endormi dans la rue. Et avec mon frère, on a compris que c'était sa manière à lui d'exprimer la toxicomanie de ce fils-là, et que c'est aussi le moment où, dans le village, quand on a commencé à retrouver des jeunes gens endormis dans la rue, une seringue dans le bras, c'est le moment où la catastrophe, qui était jusqu'alors invisible, est devenue visible. Et j'aimais bien ce titre parce que endormi, d'abord, c'est un titre au pluriel et je voulais pas seulement raconter l'histoire d'un oncle, je voulais raconter l'histoire de toute sa génération. Et aussi parce qu'il y a une polysémie du terme endormi qui veut aussi dire oublié. Et ça nous ramène à ce qu'on disait au début de cet entretien, c'est que les toxicomanes ont été aussi les victimes oubliées, d'abord sanitairement, mais quand le VIH-Sida est arrivé, ils ont aussi été les derniers à être pris en charge.
Anthony Passeron, Les enfants endormis, paru aux éditions Globe. Alors maintenant que ce roman existe, la question rituelle dans cette émission, c'est de savoir, Anthony Passeron, si vous allez continuer sur le chemin d'écriture et si oui, vers quoi votre envie vous porte ?
J'ai prévu de continuer. Là, je suis en train de terminer une tournée de un an et d'une centaine d'entretiens. Donc, ça a été très satisfaisant et en même temps très. Ça a pris tout mon temps, pour le meilleur d'ailleurs. Et j'ai pas eu le temps de me pencher sur la suite. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai envie de continuer et surtout j'ai envie de garder pas exactement la même méthodologie, mais le moteur de mon écriture, c'est finalement d'abord une écriture autobiographique. Et surtout de faire toujours du lien entre une histoire collective et une histoire intime, et essayer de montrer que jusque dans dans des choix intimes dans lesquels on pense être seul maître à bord, on est définitivement hanté par le collectif. Et c'est peut-être mon travers de professeur d'histoire géo qui veut aussi que le lecteur apprenne quelque chose d'une histoire contemporaine. Donc je sais que je vais encore continuer avec cette famille-là. Elle n'a pas été traversée que par le VIH-SIDA, elle a été traversée par tout un tas d'autres choses, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Mais essayer de continuer à écrire l'histoire de cette famille et de ceux qui l'ont traversée.
Merci en tout cas, Anthony Passeron. Il faut
lire, merci infiniment à vous.
Il faut lire Les Enfants Endormis, c'est pareil aux éditions du Globe. Il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées. Il y a la question des enfants, mais ça, il faut laisser les futurs lecteurs découvrir le livre. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour un prochain.
Écoutez, dès qu'il est prêt, ça sera avec un grand plaisir.
Avec un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
This is a song about a parade they have every year down the village around Halloween. A lot of people haven't been able to make it there lately, and that's what this song's about. It's about AIDS. It's called a Halloween parade. Well, there's a downtown fairy singing out Proud Mary as she cruises Christopher Street. And son, Southern Queen is acting loud and mean where the ducks and the Badlands meet. This Halloween is something to be sure, especially to be here without you. There's a Greta Garbo and Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's five Cinderellas and a leather drag. I almost fell into my mug. A Crawford Davis and a techie Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary. You won't see those faces again. And Johnny Rio and Rotten Rita. You won't hear those voices again. The celebration somehow gets me down, especially when I see that you're not around. There's the born again losers and the lavender boozers, a crack team from Washington Heights, the boys from Avenue B, the girls from Avenue D, a Tinkerbell in tights. It's a different feeling that I have today, hey, especially when I see that you've gone away. There's no Peter Pedantic saying things romantic in Latin, Greek, or spic. There's no Three Bananas, no Brandy Alexander dish and all their tricks. The celebration somehow gets me down, especially when I see you're not around. There's a girl from Soho with a t-shirt saying I've low. She's with the Jive 2 plus 3. And the girl for paid dates are giving cut rates, or else they're doing it for free. The past keeps knock, knock, knocking on my door, and I don't want to hear it anymore. No consolations, please, babe, for feeling funky. I gotta get my head above my knees, 'cause it makes me sad, and sad makes me mad. And then I start to freeze. In the back of my mind, I was afraid it might be true. In the back of my mind, I was afraid that they meant you. At the Halloween parade.
Parade.
At the Halloween parade. At the Halloween parade.
Halloween parade.
See you next year at the Halloween parade.
Halloween parade. Wow, wow.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio
Libertaire. C'est toujours Radio Libertaire et c'était donc Anthony Passeron qui nous parlait des Enfants endormis, son roman paru aux éditions du Globe, que je vous recommande. Et puis c'est un retour sur ces années sida qui ont été un petit peu occultées. On les a mises un peu sous le tapis comme la poussière et c'est bien dommage parce que ça a concerné quand même beaucoup de monde et c'est encore, même si maintenant il existe des traitements, c'est encore présent le VIH. Voilà, on va retrouver maintenant Gérard Guégan pour sa chronique consacrée donc aux deux ouvrages que sont la biographie consacrée à Kafka et le roman de Philippe Videlier qui est paru aux éditions Gallimard et qui s'appelle Rendez-vous à Kiev. Gérard Guégan. Radio Libertaire 89,4 MHz et on retrouve Gérard Guégan pour sa dernière chronique de l'année. Il va y avoir une petite pause estivale et aujourd'hui tu vas nous parler de quoi Gérard ?
Je vais parler de deux livres qui ont retenu évidemment mon attention et qui, je veux dire, que je trouve assez formidables l'un comme l'autre. L'un, c'est la biographie de Kafka, le premier volume de cette biographie annoncé en trois volumes. Et donc, à partir du moment où le premier volume fait 1000 pages à peu près, on peut penser qu'il y en a pour 3000 pages. Donc, c'est une énorme chose. Et c'est la grande, évidemment, biographie de Kafka, comment ne le serait-elle pas, puisqu'il est encore une fois 1000 pages d'un coup, c'est long à lire. Et pour tenir, il faut vraiment que ça marche. Il faut vraiment que le biographe en question, Rainer Stack, ait du talent, et sache à la fois écrire, décrire, réécrire même parfois, en tout cas voilà. Et l'autre c'est Philippe Videlier qui est quelqu'un que je suis, que j'aime bien, j'allais dire beaucoup, mais c'est vrai, certains livres je les ai beaucoup aimés. Le premier qui était Le Jardin de Bakounine et autres nouvelles de l'histoire, qui remonte à 2001, c'était déjà un livre très finement descriptif et très astucieux, qui montrait que l'écrivain en question, Videlier, était à la fois quand même quelqu'un qui connaissait plutôt bien l'histoire, par exemple, de l'anarchisme et l'histoire de Bakounine. Et en même temps, c'était pas un historien, c'était un écrivain, et même s'il est professeur à l'université à Lyon, il se comportait en écrivain. C'est-à-dire qu'au fond, il faisait ce que moi j'essaie de faire aussi de mon côté, donc c'est peut-être, je plaide pour moi quand je dis ça. Il s'appuyait sur un fond de vérité et il introduisait à l'intérieur de ce fond de vérité un fond de créativité, c'est-à-dire sa part, et donc évidemment il modifiait ou il changeait l'angle d'attaque et tout ça. Et donc là, celui-ci, le dernier venu, s'appelle Rendez-vous à Kiev et commence par une vingtaine de pages sur Bronstein, c'est-à-dire Trotsky, qui va jouer un grand rôle à Kiev, aussi bien lors des périodes révolutionnaires que lors du moment où il est dans la clandestinité et où il participe à des journaux et tout ça. C'est donc à la fois, je veux dire, je sais pas comment le résumer, c'est à la fois aussi passionnant qu'un excellent chapitre d'un historien quelconque, et en même temps on a un doute, mais un doute agréable. On se dit, bah, ça n'a pas dû se passer tout à fait comme ça. C'est beaucoup trop beau. Et non, apparemment, ça s'est vraiment passé comme ça. Et c'est tout le talent de Videlier que de le faire sentir. Donc, c'est un livre sur l'Ukraine, au fond. Et ça tombe, je veux dire, ça n'a pas été écrit dans l'urgence. Ça a été écrit, je suppose, ces dernières années, au fur et à mesure. Et donc, ce n'est pas vraiment l'opération de Monsieur Poutine. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est un livre à la gloire de la gloire. C'est-à-dire, ce qui est célébré, c'est la beauté de Kiev. Évidemment, c'est quelque chose auquel on pense pas depuis un an et demi, depuis que les chars de Poutine sont entrés en Ukraine. On n'y pense pas beaucoup. Les images que l'on voit, c'est des images de destruction, des images de guerre. Et c'était, dès le début du XXe siècle, une ville et un pays où il faisait bon vivre et où la vie intellectuelle, la vie politique était très riche. L'antisémitisme aussi, déjà, parce que déjà, il y avait par-ci, par-là, des massacres de juifs, ou en tout cas des assassinats crapuleux, mais toujours dirigés contre les juifs de la ville, ou à Odessa, parce qu'en même temps, il y a Kiev et les escaliers d'Odessa, dans son livre, donc les escaliers d'Odessa, dont on sait qu'ils n'existaient pas, et que Eisenstein les a inventés, mais ça fait rien, quoi. Donc le livre est peut-être inventé. En tout cas, c'est assez formidable et ça va jusqu'au bout. Et là, c'est là où on voit que les écrivains sont des visionnaires, et des visionnaires autrement plus habiles, autrement plus lucides que les politiques qui font autant profession de nous parler de l'histoire, de l'actualité politique qui deviendra l'histoire. Et là, ça va jusqu'à la fin avec. La dernière ligne, c'est Vladimir Poutine peut consulter son astrologue, parce que après avoir raconté, évoqué rapidement tous les assassinats de tsars, puis ensuite, en élargissant son propos, il parle donc des assassins d'État et les criminels serbes, Milosevic, Karadzic et Mladic en ont fait l'expérience, et ça se termine par Vladimir Poutine peut consulter son astrologue. Et ça me paraît un sage. Conseil, en tout cas pas un sage, mais un conseil bienvenu, car c'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà, donc j'aurais dû, je m'en excuse auprès de Philippe Videlier, en dire encore plus de bien, mais c'est vraiment un petit livre comme je les aime, c'est-à-dire qu'on prend, on entre, et après la première page c'est fini, on va jusqu'au bout, et quand c'est fini on se dit « Ah ben dis donc, c'était vraiment court !» Ben oui, c'était court, et donc c'était court, mais formidable.
On the day the wall came down, they threw the locks onto the ground, and with glasses high, we raised a cry, for freedom had arrived. The ship of fools had finally run aground. Promises lit up the night. Paper dolls in flight. I dreamed you had left my side. Now life devalues day by day, as friends and neighbors turn away, and there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloodied hands of loyalty, of history in shame. Yeah.
Voilà. Mais j'aurais voulu en parler plus, mais quand même, il faut parler du Kafka, qui est très gros, et qui mérite lui aussi, évidemment, et qui est une espèce d'IRM, si je puis dire, de Kafka. J'ai jamais lu autant de choses sur lui, sous la plume d'un seul homme, d'un seul biographe, donc de Rainer Stack. C'est comme si il était à la fois, donc je suppose, les IRM, ce sont des radiologues qui les font passer.
Oui.
Donc il est à la fois le radiologue de l'œuvre en gestation, là, parce que c'est quand même le début de la vie de Kafka, de la vie à la fois sentimentale et littéraire, et culturelle et intellectuelle. Et en même temps, il est comme une espèce de détective privé qui, parce qu'il faut voir ce qu'il y a, hein. Il y a des centaines de lettres, il y a des milliers de pages par-ci, par-là, des témoignages, il y a Max Brod qui était le copain de Kafka, qui a raconté des choses sur lui. Bon, il y a plein de choses accessibles. Et lui, il est là face à cette masse de ça, c'est les fameux cold case de la police américaine. Il faut trouver le fil conducteur de tout ça. Et il le trouve, sans jamais trancher, sans jamais couper, sans jamais détourner les pages et dire bon, ça on n'en parle pas, on passe. Non, non, pas du tout. Tout le temps, tout est là. Donc c'est ça l'IRM. Il n'y a rien qui manque. Et donc c'est comme ça que moi j'ai appris en tout cas beaucoup de choses, hein. Je ne suis pas un spécialiste Kafka, de toute façon je racontais ça à un ami, le Kafka des années fin des années 50-60 dans les milieux d'extrême gauche, c'était très mal vu.
Bah, apparemment c'est toujours très mal vu dans certains milieux, mais bon, Kafka est quand même quelqu'un qui stigmatise un peu les réactions contre lui. Enfin, c'est vrai qu'il est à la fois reconnu comme auteur et quel auteur, et en même temps, il est détesté. C'est très étrange quand même.
Oui, il est détesté, et là, c'est assez incompréhensible, mais moi, je l'ai connu à la période où on m'a dit, j'étais politique, et on m'a dit, comment tu lis ça? Mais c'est démobilisant.
Ça fait baisser le moral.
La littérature, c'est pas ça. La littérature révolutionnaire, surtout, ce n'est pas ça. Et je lui ai dit, bon, c'est peut-être pas révolutionnaire, mais en tout cas, la métamorphose, ça me plaît beaucoup.
Eh oui.
Voilà. Alors, donc, là, on a ça. C'est donc le début de la, si je puis dire. C'est pas vraiment le début. Il a déjà une vingtaine d'années. Mais c'est le début de sa vie, à la fois intellectuelle et sentimentale, car il va tomber amoureux en 1912. D'une femme qu'il aura vue quelques minutes ou quelques heures, peut-être, on ne sait pas, on ne va pas faire les comptables, mais chez un ami à lui, Max Brod, qui jouera un grand rôle ensuite lorsqu'il sera mort, Kafka, et il en tombe amoureux. Il en tombe amoureux sans lui avoir peut-être adressé la parole, ou en tout cas fait la cour, ou en tout cas flirté avec elle, rien de tout ça. Voilà. Et il décide de lui écrire. Et il va écrire près de 500 lettres. C'est pas rien. Il va se servir du facteur, comme dit très très bien Rainer Stack, comme le facteur va lui permettre de faire sa cour. Donc ça c'est une belle formule, parce que c'est vrai qu'il lui écrit sans arrêt. Et petit à petit, et on le comprend, et Rainer Stack nous aide à le comprendre, en fait toutes ces lettres sont adressées à une femme dont il est, semble-t-il, très amoureux, et en même temps, ce sont des lettres sur pourquoi il écrit, ouais. Sur qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que je vais faire dans ce... Quel est le sens de mon travail? Il y revient souvent, parce qu'il lui dit, mais vous pouvez arrêter de m'écrire, parce qu'au fond, mais si vous arrêtez de m'écrire, je meurs. Je meurs pas parce que vous arrêtez, je meurs parce qu'à ce moment-là, je ne pourrais plus vous écrire.
Ouais.
C'est ça la subtilité de la chose. Ça, je comprendrais qu'aujourd'hui, ça passe mal, on dit quand même, bon, j'imagine tout ce qu'on peut dire. Mais moi, je m'en fous complètement. Je le suis dans cet amour et je comprends parfaitement que ce type qui est pas seul, parce qu'il est dans une famille bourgeoise, juive, de Tchécoslovaquie, ça s'appelait pas Tchécoslovaquie, mais l'Empire austro-hongrois, à Prague. Donc la Tchécoslovaquie qui est ensuite et aujourd'hui je crois s'appelle la Tchéquie, non? C'est ça?
Oui.
Voilà. Donc les extraits de lettres qu'il donne sont complètement formidables. En fait, c'est un livre qui m'a réconcilié totalement avec les biographes qui souvent m'ennuient parce que je trouve que c'est un peu le côté étudions sa veste et regardons s'il manque un bouton. Ça me fait parfois penser à ça. C'est souvent un peu lourd. C'est rare depuis Proust, depuis la biographie de Proust il y a 30 ou 40 ans qui était aussi assez remarquable parce qu'elle révélait du caractère de Proust. Et d'ailleurs, au fond, il aurait pu y avoir une rencontre Proust.
Entre les deux, oui.
Arbitré par, moi je suggère ça, si un auteur est capable de le faire, pourquoi pas, arbitré par Freud.
Tu vas loin là, oui.
Oui, ça serait une pièce assez remarquable.
Ah, ouais. Ça nécessite une certaine culture quand même pour écrire ça. Hein.
Il y a les sœurs, parce qu'il y a les sœurs aussi, qui toutes vont mourir. Par la faute, c'est pas la faute. Parce que le nazisme s'attachera à les détruire et les détruira. Il y a à la fois le père, la mère, tout ça. C'est réellement un grand, ça pourrait être un grand roman psychanalytique.
Ouais.
Et je suis pratiquement sûr, je pense que Freud aurait été, ça aurait été, quel sujet? Quel sujet?
Oui, ouais.
Donc, je vais lire un petit extrait de lettre en espérant que je serai meilleur que pour Bidelier. Pourtant, j'ai fait partout des marques. Mais lui, il en a plus, Freud, Kafka. Il a les droits à plus. Donc, par exemple, il y a une des lettres qui est une lettre du tout début. Hein, c'est 3 ou 4 mois après l'avoir vu, où ils se sont déjà écrits beaucoup. Elle a tout de suite. Elle a adoré ça, elle a adoré écrire à quelqu'un avec qui elle n'avait, je veux dire, il ne s'était même pas touché, il n'y avait rien.
Rien, ouais.
Et donc à un moment donné, il se demande pourquoi ils écrivent, et peut-être elle, en tout cas, elle se dit, peut-être qu'on pourra arrêter, et lui, il lui a écrit une lettre, voilà, vous n'avez plus le droit de m'écrire, parce que ses parents prennent peur de cette histoire entre leur fille, sur laquelle ils sont persuadé de son avenir et que ça va être, c'est aussi la bourgeoisie juive allemande, là, les Bauer, donc ils sont persuadés que cette fille va avoir une vie formidable, un destin formidable, et ce petit écrivaillon de Prague, là, qu'est-ce que c'est, ce type qui lui écrit sans arrêt, et elle, après, il faut qu'elle réponde, elle passe des heures à ça, donc les parents commencent à avoir un peu peur, et donc ça explique la première phrase. Vous n'avez plus le droit de m'écrire, moi non plus, je ne vous écrirai plus. Et pourquoi cela? Je vous rendrai malheureuse en écrivant, et on ne peut rien pour moi. Oubliez vite le fantôme que je suis, et vivez joyeuse et sereine comme vous l'étiez avant. Donc là, c'est vraiment une autodestruction totale, c'est-à-dire qu'il se condamne, et on est loin de la vérité, mais c'est en même temps, il va jouer à ça tout le temps. Et le livre est rempli de ça. Bon, les lettres, par exemple, étaient connues, elles ont même fait l'objet d'un volume, mais là, c'est la façon dont c'est remonté, c'est comme un film, mais c'est, je pense que je tiens mon IRM, c'est réellement comme une vision de l'intérieur de la chose en train de se faire. Voilà. Donc, je pourrais continuer comme ça longtemps, en citant les extraits, et encore en donner un autre encore. C'est une de ses premières lettres, et ça, elle est capitale par rapport à l'écriture. « Ma vie consiste, et a au fond toujours consisté, en tentative d'écriture le plus souvent ratée. M'arrivait-il de ne pas écrire? Aussitôt, je gisais au sol, tout juste bon à ce qu'on m'évacue d'un coup de balai. Or, mes forces ont toujours été misérables, et même si je ne m'en suis pas clairement rendu compte, il a fallu que j'économise de toutes parts, que je laisse un peu filer de tous côtés, afin de garder une force à peu près suffisante pour ce qui m'apparaissait comme mon but principal. J'ai fait un jour une liste détaillée de ce que j'ai sacrifié à l'écriture et de ce qui m'a été pris au nom de l'écriture, ou pour mieux dire, des pertes que seule cette explication me permettait de supporter. Et en effet, de même que je suis maigre, je suis la personne la plus maigre que je connaisse. Donc quand j'ai lu ça, j'avais lu les lettres, encore une fois. Mais là, au milieu du texte et le montage...
C'est remarquable, c'est remarquable.
Donc, en plus, il y a quelque chose auquel je n'avais pas songé, et c'est toujours par rapport à la pièce possible, la rencontre Proust-Kafka-Freud, c'est que c'est sa profession. Je savais qu'il était dans les bureaux, qu'il travaillait dans une société de... En fait, il travaille dans une société d'assurance.
D'assurance, oui.
Pas d'assurance de n'importe quoi, des accidents du travail. C'est-à-dire qu'il est celui qui arrive après l'accident et qui constate les dégâts. Il voit aussi des hommes ou des femmes mutilés,
cassés,
tout ça, etc. Donc, c'est pas rien pour expliquer la métamorphose, etc., etc. Voilà, j'ai fini parce que sinon, encore une fois, on aurait pour des heures. Et il y a autre chose dans le monde qui se passe que Kafka.
Oui, en tout cas, moi je trouve que c'est un livre, c'est une biographie qui est passionnante, que j'ai mis de côté pour plus tard, parce qu'il faut avoir le temps de la lire et de s'y plonger et de découvrir. Et il faut arrêter de réduire certains auteurs à des images caricaturales. Il vaut mieux essayer de les lire, ça permet au moins d'en tirer du plaisir de lecture.
Ah oui, et c'est sûr. Et puis surtout, encore une fois... pour le lecteur qui lui-même caresse parfois l'envie d'écrire, ça, donc disons de l'écrivain en herbe, ou en tout cas de l'écrivain débutant, il y a là sans arrêt des sujets les uns après les autres. Par exemple, le sort des sœurs, des trois sœurs, c'est terrifiant, et c'est l'histoire du XXe siècle, l'horreur de l'histoire du XXe siècle, le choix entre le nazisme et le stalinisme, et la mort dans les deux cas de l'individu, et l'écrasement de l'individu. C'est l'horreur absolue, quoi. Et donc ça, on se dit, mais c'est un livre à part, encore, c'est un autre sujet. C'est...
Oui, t'as du travail devant toi, éventuellement.
Je suis pas assez bon, je suis pas un grand Proustien. J'aime bien, mais je suis fatigué. Allez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour l'été.
Eh bien, c'était donc « Rendez-vous à Kiev ». C'était donc ce livre qui est de Philippe Fidelier et qui est paru chez Gallimard. Et puis, bien sûr, le premier volume de la biographie de Kafka. Voilà, bah, écoute, merci, passe un bel été et on se retrouve à la rentrée.
J'espère et je te souhaite la même chose. Allez, adios.
C'est la fin de ce numéro d'Idéo et Débat. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. On parlera avec François Ullery de son recueil de nouvelles qui est paru au Lys Bleu et qui s'intitule « Mort de peu ». Et puis on aura un chroniqueur surprise, enfin que vous connaissez déjà, mais qui fera probablement son retour, et puis plein de bonnes choses. Et on commence déjà à travailler sur la rentrée littéraire, où il y a de très beaux livres qui paraissent. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire, c'est 89.4. À bientôt.
Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Quand ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite, ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. Elle te montre où chercher parmi les déchets et les fleurs. Dans les algues, il y a des rêves, des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour. Ils se penchent comme ça toujours. Et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant, tu n'as plus peur. Voyager, les yeux fermés, une blessure étrange dans ton cœur.
Stairs. Oh, something is happening.